Le droit et nous, dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.
Suite de nos ateliers sur la préparation de l'entretien d'assimilation pour obtenir la nationalité française par naturalisation. À présent, nous allons partir au 01 55 07 58 00, poser vos questions en direct. On va commencer avec Anna. Anna, son époux est médecin. Il a fait sa formation au Maroc en 2006. Il est venu en France jusqu'à 2015. Et il est reparti en Afrique. Il est venu en 2017. En tout cas, il va nous donner plus de détails. Bonjour Anna.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
Nous vous écoutons Anna.
Alors, vous avez bien introduit. Donc effectivement, c'est ça. Là, le premier volet, ça concerne mon époux. Il a été formé au Maroc en médecine générale. Donc il est arrivé en France en 2006. Il a fait sa spécialisation et ensuite il est resté travailler. En 2015, il est reparti.
Il a travaillé de 2006 à 2015 en France, c'est ça?
En fait, la spécialisation dure à peu près 3 à 4 ans, je pense.
D'accord.
Et donc, après cela, il a commencé à travailler dans un hôpital en région parisienne.
D'accord.
Voilà. Et donc ensuite, il est reparti en 2015 au pays. Et il est revenu en 2017. Il a eu la chance d'être reçu de nouveau dans l'hôpital où il travaillait. Donc depuis janvier 2017, il est en région parisienne, il travaille. Et donc sa question, c'était de savoir est-ce que, dû au fait que son séjour a été du coup interrompu, est-ce qu'il peut solliciter cette année, il peut demander la naturalisation cette année.
D'accord. Et quand vous dites qu'il est médecin, ça veut dire qu'il est vraiment docteur, hein?
Oui, c'est ça. Il est docteur avec spécialité.
D'accord. Et il a validé le doctorat au pays d'origine. Il a fait la spécialisation ici en France.
Exactement, oui.
Après, l'intérêt, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu une équivalence de son diplôme étranger ici en France? A priori, ça se fait. Beaucoup le font, d'autant plus que c'est un pays francophone. Si cette équivalence a été actée, effectivement, sa naturalisation ne posera pas de problème par rapport au délai des stages. On ne va pas lui comptabiliser la durée. Je vous donne toutes les solutions d'abord. D'abord, il y a cette solution, si c'était son cas de figure, il n'a pas besoin d'attendre 5 ans, ce qui est le principe pour être naturalisé. Parce que comme il y a la rupture, la pertinence de votre question est de savoir, comme il ne peut plus comptabiliser la durée de séjour antérieure à son retour en France en 2017, qui est récent, est-ce qu'il peut néanmoins, à partir de la computation de 2017, estimer être un postulant éligible à la nationalité française? C'est ça la question.
Exactement.
Très bien. S'il y a son diplôme qui est validé, effectivement, la condition de stage ne le concerne pas parce qu'il est diplômé et son diplôme a eu une équivalence ici en France en tant que médecin. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, il est francophone. Il est ressortissant d'un pays qui applique au moins une langue officielle qui est le français. Il a été scolarisé au moins pendant 5 ans dans un système de scolarité en français. Il réside régulièrement en France. La condition de stage ne lui est pas opposable. Ça, c'est la solution ultime. Ça veut dire qu'il n'a pas l'obligation, comme d'autres étrangers, d'attendre de vivre ici 5 ans ou même 2 ans pour ceux qui ont un bac plus 2. En ce qui le concerne, à partir du moment où il a une période de référence de 12 mois, période pendant laquelle il peut attester et détenir les moyens, ne pas dépendre des minima sociaux, cette personne peut demander la nationalité et fort probablement, cette personne l'aura. Parce que de la circulaire du 16 octobre 2012, il a été indiqué et orienté que ces personnes qui ont un bon potentiel d'intégration, notamment les médecins, parce qu'il y a une pénurie de médecins ici, doivent être favorisées. Non seulement il est éligible, son dossier sera recevable, mais dans le fond, il a beaucoup de potentialité parce qu'il est médecin.
D'accord.
Voilà. Anna, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Son diplôme a été reconnu et il est inscrit à l'ordre des médecins. Oui.
Ah, il a été inscrit à l'ordre des médecins, donc le problème est résolu. Donc ça, sauf s'il traîne des casseroles au niveau pénal, je veux dire, s'il a été condamné pour des sanctions infamantes ou dégradantes, je ne crois pas que ce soit son cas, parce que sinon il serait quand même radié, même de l'ordre des médecins. Ce n'est pas le cas. Donc cette personne doit déposer s'il le veut et l'aura la nationalité française. Ce serait vraiment un problème assez délicat s'il ne l'aurait pas.
Merci beaucoup, Anna.
Merci.
Passez une bonne journée.
Ah
non, ce n'est pas possible, Anna. Nous avons beaucoup d'appels. On va enchaîner avec Sako. Sako, je souhaiterais préparer le dossier de demande de naturalisation pour toute ma famille, 6 personnes, dont mon fils de 18 ans. Comment faire? C'est cela, Sako.
Oui, c'est cela. Bonjour.
Bonjour, Sako. Bienvenue, Sako.
Bonjour, monsieur Tal.
Bonjour, monsieur Sako.
Alors, monsieur Phil, vous allez bien?
Ça va.
Eh, votre fils à Darwin, il va bien?
Oui, il va très bien, oui.
Ah là là, fils Darwin, il me dit là.
D'accord.
Monsieur Tal, bon, moi j'ai voulu préparer le dossier comme vous, je vous ai dit à votre collègue.
D'accord.
Donc, par contre, mon fils, il a 18 ans. Là.
D'accord.
Bon, je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'ai jamais fait. Il y a des collègues qui m'ont dit qu'il faut faire les formations, je ne sais pas, formation de langage. Bon, comme moi j'ai déjà fait les études ici, bon, j'ai tous les diplômes, bon, donc je ne sais pas comment je vais faire.
Très bien. Si votre fils a 18 ans accompli, excusez-moi pour la voix, là, j'ai tout ouais. un peu. Si votre fils a 18 ans, ouais. vous ne pouvez pas déposer une demande de nationalité pour lui. Il doit faire une même demande que vous, la même demande.
Comme moi.
Voilà, vous faites la même demande concomitamment, c'est mieux pour montrer que c'est la famille. Mais il lui faut un dossier, il lui faut le CERFA, demande de nationalité, ouais. et montrant aussi qu'il a de la famille, même s'il ne travaille pas, ouais. par rapport à des questions de résidence. Donc voilà, l'assimilation, à partir du moment où il est là, il vit ici.
Ouais.
Il a vécu 10 ans en France ou bien
Il est à peu près 4 ans en France. Moi, je suis là à 20 ans.
D'accord, s'il a 4 ans en France, donc là, la question d'assimilation ne sera pas concernée. Tout ce qu'on vient de dire va l'intéresser. Il faudra qu'il se prépare comme vous à l'entretien ouais. d'assimilation. Il faudra qu'il donne les mêmes documents, qu'il montre aussi qu'il n'a pas de sanction pénale, qu'il demande le casier judiciaire. Il n'a pas fait 10 ans. Vous n'avez pas besoin de demander le casier judiciaire de votre pays d'origine. Lui, il en a besoin parce qu'il a fait moins de 10 ans. D'accord ? Donc, ce sont ces éléments-là qu'il doit ajouter à sa demande au même titre que vous, avec le même formulaire. Et au moins, au niveau des ressources, s'il est à l'école, il va montrer qu'il est à l'école. S'il est étudiant, il va le montrer. S'il travaille, et qu'il montre qu'il a des ressources. D'accord ?
Il a
en formation. Il faut qu'il mette les éléments sur sa formation. Ça suffira pour lui et les éléments sur la famille. D'où l'intérêt pour vous de faire la demande concomitamment. Donc, pour éviter qu'il y ait donc beaucoup de complications pour lui. Mais n'essayez pas de le mettre dans votre dossier. Ça ne marchera pas du tout. Et pour le reste de la famille, tous ceux qui sont mineurs peuvent faire une demande ensemble. Même si vous voulez le faire avec votre conjoint, vous pouvez faire une demande jumelée aussi avec, ouais. avec votre conjoint.
Avec ma femme, ouais.
Voilà, mais votre femme aussi doit se préparer au niveau du français. J'espère qu'elle a aussi le niveau de français requis. Elle a fait une formation.
Ouais.
Et aussi se prépare à l'entretien d'assimilation. Tous les éléments qu'on vient de dire seront importants pour vous. D'où l'intérêt, si vous avez échappé des choses, d'écouter les podcasts pour vous préparer. C'est très important. Donc, le nez de la guerre, c'est cet entretien. Parce que beaucoup de nos compatriotes sont recalés avec cet entretien d'assimilation. J'ai été chargé d'une mission naturalisation en 2009, 2010, 2011 parce qu'il y avait un gros contingent d'Africains qui étaient recalés parce qu'ils n'avaient pas...
Franchement, ça fait longtemps que je vous écoute.
Ah, très bien. Voilà.
Ouais.
Très bien. Donc voilà, je vous conseille d'insister sur ces éléments-là et normalement, vous devrez l'avoir. D'autant plus que vous avez fait 20 ans en France, ça veut dire que votre ancrage sociétal est acquise. On ne peut pas vous nier cela. D'accord ?
Voilà.
Est-ce que je peux voir votre numéro ?
On vous donnera ça.
On vous le donnera, appelé au standard. Ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup, Sako. On va prendre Diana. Mon grand frère est marié au Sénégal et parti en France avec le statut politique. Que faut-il faire pour faire venir ses enfants majeurs pour un regroupement familial ? On sort un peu du sujet, là, je pense. Bonjour, Diana.
Bonjour.
Bonjour, Diana.
Donnez-nous plus Bonjour. De détails.
Alors, les détails. Donc, en fait, c'est mon frère qui est arrivé ici. Il a demandé le statut de réfugié politique qu'il a eu.
Oui.
Par la suite, il a demandé la naturalisation.
Mmh.
Et c'est au moment de la naturalisation, peut-être par peur, ou en fait, il n'a pas nommé ses enfants qu'il avait à l'étranger.
Alors, Diana, la qualité de la ligne téléphonique... N'est pas tout à fait bonne. Vous allez revenir tout à l'heure. Rappelez, hein, ne coupez pas. On va prendre Sanogo. Est-ce qu'il est là, Sanogo ?
Bonjour.
Bonjour, Sanogo.
Oui.
Sanogo, il faut couper absolument votre poste. Hein.
Ça va maintenant ?
Voilà. Sinon, je vous donne un double carton jaune comme à Pogba hier soir. Alors, Sanogo, pour une personne qui a un enfant de 2 ans, né en France, la mère a une carte de résidence de résidente hein, de 10 ans, c'est ça. Mais le père n'a pas de papier. Que faut-il faire pour la nationalité?
Non, pas pour la nationalité, pour un titre de séjour normal pour le père.
D'accord.
Alors expliquez-nous en détail parce que c'est un peu complexe. Et quelle est la situation, Sanogo?
La situation, c'est ma copine, elle a un titre de séjour de 10 ans et on a un petit garçon qui a 2 ans.
Mmh.
Et moi, je voulais, je ne sais pas, avec les preuves de quoi, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir un titre de séjour.
D'accord. Donc, c'est vous qui êtes concerné, hein ?
Oui.
Ce n'est pas votre conjoint, c'est votre copine ?
Oui, c'est ma copine.
Ah. Ça veut dire vous n'êtes pas marié ni paxé ?
Non.
Donc voilà, en fait, la réponse est simple et malheureuse. Hein, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité pour l'instant parce qu'il n'y a aucune union. Le concubinage en tant que tel, même si vous n'avez pas fait une déclaration de concubinage à la mairie non plus?
Non, on n'a rien.
Bah, il faut régulariser après, la situation.
Est-ce que votre adresse, vous avez la même adresse?
On a la même adresse, oui.
Tous vos documents sont là-bas?
Oui, j'ai mes documents là-bas sur l'adresse.
Très bien. Au fait, vous, ce que vous pouvez escompter, c'est une régularisation dans le cadre de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour. Combien de temps avez-vous vécu en France?
Ça fait au moins... Depuis en 2012, je suis là.
Depuis 2000?
2012.
Depuis 2012. Vous avez une autre femme au pays ou bien d'autres femmes au pays?
Non, j'ai pas d'autres femmes au pays.
Et des enfants là-bas?
Non, j'ai...
D'accord. Et papa et maman sont au pays?
Oui, papa lui, il est en Italie et maman, elle est au pays.
D'accord. Donc, vous, ce qui vous reste, parce que vous n'avez pas vécu longtemps, vous avez fait 6 ans en France et donc vous ne parlez pas de régularisation pour le travail. Ce que vous voulez, c'est la régularisation au titre de la vie privée et familiale. Le seul élément que vous avez, c'est le fait que vous avez des documents attestant que vous avez une vie de concubinage. Ça peut être un élément pour renforcer une demande d'admission au séjour au titre de l'article L313-14 du Code des étrangers pour le motif humanitaire. Mais il faudra démontrer qu'en plus de cela, vous seriez dans l'isolement familial dans votre pays d'origine. C'est pourquoi je demandais si vous avez des attaches là-bas. Si vous démontrez que l'essentiel de vos attaches est en France et que là-bas vous serez dans l'isolement, vous n'avez plus de frères et sœurs, il n'y a que maman qui reste, effectivement, ça peut vous servir d'utiliser cet élément que vous avez. Vous avez cet enfant-là, l'enfant de votre copine, c'est votre enfant?
Oui, c'est mon enfant, oui.
C'est votre enfant, d'accord. Donc là, c'est une possibilité. Mais cet enfant, pour l'instant, ne vous permet pas de bénéficier de l'application de l'article que je viens de citer à travers la circulaire du 28 novembre 2012, qui vous permettrait, si votre enfant était scolarisé et que vous avez vécu au moins pendant 5 ans en France, condition que vous avez remplie, de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour pour motif humanitaire. Mais je ne crois pas que vous allez attendre encore 3 ans, 4 ans. Rester comme ça sans démarche, ça peut être un peu délicat. Donc, ce que vous pouvez entamer, c'est effectivement utiliser l'article L313-11 du Code des étrangers pour dire que l'essentiel, quand on fait la balance, l'essentiel de vos attaches personnelles sont en France, où vous avez une personne avec qui vous vivez et des liens avec cette personne, vous avez un enfant à l'entretien et à l'éducation duquel vous participez. Il faudrait le démontrer. Hein? Allô? Vous avez dit quoi?
Allô?
Oui. Monsieur, vous m'entendez?
Vous entendez?
Allô?
Oui.
Nous vous entendons parfaitement.
Donc voilà les solutions. Voilà. De toute façon, ça tombait plus le poil parce que c'était, c'était la solution.
Nous avons été coupés. On va prendre Ernest.
Oui, allô?
Bonjour Ernest.
Oui, bonjour.
Vous avez donc un ami qui souhaite sa naturalisation. Il a été marié en 2013, c'est cela, et séparé pour violence conjugale en 2016. Sa femme a été condamnée.
Oui.
D'accord. Donc, quelle est la question? Donc, c'est bien défini. Maintenant, quel est votre souci?
Oui, jusque ce que, quand elle est sortie de prison, monsieur, ils ont fait le divorce, la demande le divorce à l'amiable, soi-disant, conversement à l'amiable, ça part plus vite et ça va se faire vu qu'il y a des séparations. Sauf qu'ils sont tombés chez un avocat et depuis, ils ont que le certificat de non-conciliation depuis plus d'un an. Donc, du coup, le divorce n'est pas encore prononcé, sauf qu'il y a tout un report ou bien quoi. Je ne sais pas si c'est son avocat qui traîne l'affaire, on ne sait rien. Du coup, en tant que monsieur, il a eu un enfant, voilà. À l'extérieur, bon, il a un enfant, donc du coup, il n'aime pas savoir sa question. C'était, est-ce que dans ces conditions, vu qu'il n'est pas tout divorcé, est-ce qu'il peut demander la naturalisation et puis inclure l'enfant qu'elle a eu, au fait?
Cette personne a un titre de séjour?
Non, il a la carte de résidence.
La carte de résident. Donc, quelle est son inquiétude par rapport à ça? Donc, c'est plutôt la nationalité?
Oui.
Mais qui a été l'auteur des violences conjugales? C'est pas lui. Lui est...
Non.
Le mari est victime, hein?
Oui, victime, puisque c'est la femme qui a été condamnée.
Et que la femme a été effectivement condamnée, hein?
Il a fait la prison, et puis il est sorti de la prison. Il a interdiction de mettre pied au domicile conjugal. Ah, très... Obligation de se soigner, de fait, éclatant. Donc, du coup, il meurt à savoir, vu que... depuis là, il a demandé le divorce. Le divorce ne n'arrive pas.
N'a pas été donc acté pour l'instant, je comprends bien.
Pour l'instant, donc il n'y a que l'acte de séparation, de non-conciliation, comme vous dites. Et en tant que monsieur, il a eu un enfant ailleurs. Il a essayé de reprendre une vie, je vais dire, en griffe. Donc, du coup, il voudrait savoir s'il peut demander la naturalisation dans ce cas et inclure l'enfant qu'il a eu. Parce que, en plus, que l'enfant qu'il a eu avec l'autre a une nationalité française, au fait.
L'enfant qu'il a eu avec l'autre, c'est-à-dire la femme qui a été condamnée?
Non, avec la femme qui a été condamnée, il n'a pas d'enfant, en fait.
Donc, cet enfant-là est de nationalité française?
La femme qui a été condamnée, ils n'ont pas d'enfant ensemble.
Oui, mais... Mais expliquez-moi, vous me parlez d'un enfant qui a la nationalité française. C'est lequel enfant? Il a un seul enfant?
Oui, l'enfant. Non, oui, l'enfant qu'il a eu, voilà, et après la séparation et la condamnation de sa femme, il a rencontré une autre, il a eu un autre enfant.
Mais en fait, la question, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas logique. On ne peut pas demander la nationalité pour un enfant qui a déjà la nationalité française. Vous comprenez pourquoi je ne comprends pas?
Non, il ne demande pas la nationalité pour l'enfant. Il demande la nationalité pour lui, pas pour l'enfant. Maintenant, il demande, est-ce qu'il est implicite, qu'il implique, qu'il met le dossier de l'enfant, son enfant qu'il a eu là, au mariage, qui a déjà de nationalité française, est-ce qu'il met dans son dossier à lui? Vous demandez la nationalité. Est-ce qu'il est obligé de le mettre dedans, en fait?
Ah, d'accord. En fait, voilà. En fait, je comprends bien. En fait, quand on a un enfant, il faut le déclarer. Son enfant est déjà français, donc la question de sa nationalité française ne se pose pas du tout. On est d'accord?
Non, oui.
D'accord.
Non,
maintenant, laissez-moi vous donner la solution, d'accord? Je comprends bien votre question maintenant. Vous, c'est la question de savoir, est-ce que ça ne va pas poser problème? Est-ce qu'il est obligé de le mettre, cet enfant, du fait que l'enfant, il l'a eu alors même que l'union n'a pas été rompue avec donc son ex-femme?
Voilà.
Il y aura pas d'incidence. Il y a une séparation de fait. Il y a une séparation de corps qui a été actée par la non-conciliation. Donc, en général, les époux sont libres, les époux refont leur vie. Et même s'il n'y avait pas du tout de séparation dans un couple normal, vous savez que l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce en droit français. L'adultère, je parle de même pour un couple qui est encore en cours, a fortiori pour un couple qui est séparé de fait. Donc, effectivement, pour vous répondre, il n'y aura aucun souci. Il peut mettre cet enfant-là, d'autant plus que l'enfant est français, ce sera un ingrédient supplémentaire pour dire que j'ai une attache française en France. Donc ne vous inquiétez pas, d'autant plus que même la source de la séparation n'était pas de son chef, n'est pas de sa faute. C'est la faute d'une violence qui a été actée judiciairement et pénalement, donc il n'y a aucun souci en ce qui le concerne. Il ne doit y avoir aucune crainte.
Est-ce qu'il peut rajouter cela au dossier?
Il peut l'ajouter et il devrait même l'ajouter, ce sera même, encore même un plus.
Ah ouais?
Il ne doit pas s'inquiéter. Ah oui, il doit le faire et même je le conseille de le faire. Il ne faut pas occulter une partie de sa filiation. C'est sa filiation qui a été actée, c'est son enfant. Quand on vous demande de mettre vos enfants, si vous trichez un peu, ça peut se retourner contre vous-même. D'autant plus qu'en l'occurrence, il n'a aucune crainte à faire. Il pouvait même, je ne conseille pas aux gens de le faire, hein. Je veux dire, l'adultère en France, malheureusement, n'est plus une cause péremptoire de divorce. Ça peut être une cause accessoire, alors que ce fut le cas avant. D'accord?
D'accord. Donc, peut même, c'est-à-dire, j'ai pas compris, il peut même.
Il peut mettre son enfant, c'est ça la question, je veux dire. Je veux dire, même s'il n'était pas séparé de fait, il pourrait le mettre, il n'y a pas de problème. D'accord. Il doit le mettre, il peut le mettre. Et il gagnerait à le mettre parce que ça va prouver qu'il a quand même une attache familiale forte qui est française, l'enfant est français. On est d'accord?
D'accord. Dans le cas immédiat, là-dedans, il peut aller postuler, il peut aller déposer.
Ah, oui, il peut aller. Il a 10 ans ici en France, donc il faut qu'il passe outre. Toute la tension antérieure n'est pas de sa faute. Voilà, oui. Si lui, il était condamné, là, il y aurait un problème. Parce que le fait d'avoir une condamnation d'une peine effective, ça peut causer un problème d'indignité à la citoyenneté française. C'est pas lui qui est indigne à acquérir la nationalité française.
Merci beaucoup.
Donc, effectivement, le problème est réglé pour lui, il peut le faire. Voilà. Et je le conseille de le faire.
Voilà, merci beaucoup, Ernest. Je pense que vous avez reçu, écouté les éléments de réponse. On va donner la parole à Sophie. Sophie, qui est maman de 4 enfants français. J'ai une carte de 10 ans et je souhaiterais entamer les démarches pour une naturalisation. C'est bien la question de Sophie. Hein.
Oui, c'est bien ça. Bonjour.
Bonjour et bienvenue, Sophie.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut avoir plus de détails ou bien j'ai parfaitement résumé?
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je voudrais me renseigner en étant maman des enfants français et une carte de 10 ans. Je voulais savoir si ça allait être compliqué pour moi pour ces démarches-là, en fait.
Et est-ce que vous travaillez?
Non, pour l'instant, non. Je suis à la recherche d'emploi.
Est-ce que vous êtes en chômage? Vous avez des droits au chômage ou pas?
Mes droits viennent de tout justement de finir, en fait. Mais je suis en couple avec un mari blanc et avec des enfants.
D'accord. Ok. Donc, en fait, vous, la question, le problème qui va se poser, c'est que le fait que vous aurez du mal à approuver vos revenus. Or, sur une période de référence de 12 mois, même si ce sont des droits au chômage, vous aurez pu justifier vos revenus avec ces droits au chômage. Mais quand les droits sont finis, donc l'obstacle va demeurer. Même si vous avez des enfants français, vous êtes toujours en âge de travailler, vous n'êtes pas à la retraite, le fait d'avoir un congé français et des enfants français, c'est bien, c'est un élément fondamental, mais vous risquez d'avoir un problème par rapport à la naturalisation. Par contre, d'accord, votre mariage dure depuis combien de temps? Vous êtes marié civilement avec votre conjoint?
Oh non, non, non.
Vous n'êtes pas du tout marié?
Non.
Vous n'êtes ni marié ni paxé?
Non.
Voilà, parce que si c'était le cas, vous pouvez acquérir la nationalité française par déclaration. Ça veut dire du fait du mariage après 3 ans de vie commune effective et affective. Ce qui n'est pas le cas, donc il faut laisser ça de côté et pencher plutôt sur la naturalisation. Et là, la condition sine qua non, c'est le fait de détenir des revenus Néanmoins, si vous avez eu à travailler plusieurs fois, plusieurs années antérieurement et que vous avez perdu votre emploi, ça ne va plus être un obstacle depuis la circulaire du 16 octobre 2012 qui donne au préfet l'indication que le seul fait de perdre son emploi ne peut pas constituer en soi un obstacle pour rejeter la demande d'un postulant à la nationalité française. Il faut tenir compte du parcours global d'intégration professionnelle de cette personne. Si vous démontrez que dans les années antérieures, vous avez globalement travaillé, que vous n'étiez pas abonné aux minima sociaux, effectivement, vous pouvez faire votre demande de naturalisation. Et à cela, vous renforcez les ingrédients qui démontrent que vous faites tout pour acquérir encore à nouveau une profession, donc un métier. Ça veut dire la formation que vous êtes en train de faire. Ça, vous pouvez insister sur la formation.
En 2017.
D'accord.
Et ensuite, c'est parce que j'ai venu d'avoir mon bébé, j'arrête de travailler. Et ensuite, de cela, je voulais savoir aussi par rapport au mariage, c'est ça. On souhaite se marier. Est-ce que ça va prendre du temps pour faire cette demande ensuite après le mariage?
Oui, pour faire. Moi, je ne vous le conseille pas. Il ne faut juste pas faire le mariage pour ça parce que la question de revenu va se reposer en même temps, même par rapport à ça.
Ouais.
Jusque-là, le droit, il est plus fort. C'est une déclaration acquisitive. Alors que là, c'est une décision de l'autorité publique. Mais vous n'êtes pas encore à cette étape-là. Avant ces 3 ans, vous pouvez avoir la nationalité française. D'autant plus que vous, j'entends le bébé, il y a le bébé qui a justifié ça. Donc, avec ce bébé-là, on ne va pas vous reprocher le fait que vous êtes au chômage. C'est un droit naturel qui est acté. Ce serait discriminatoire et un recours va obligatoirement marcher. Tenez compte du fait que donc, vous avez ces enfants qui sont français, vous êtes en vie avec quelqu'un qui est français et que vous entretenez ces enfants avant vous avez travaillé et que maintenant vous êtes en formation. Voilà. Vous faites votre dossier convenablement, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, un recours marchera. Donc, voilà. Je vous le conseille. N'attendez pas les 3 ans du mariage, d'accord ?
Merci beaucoup, Sophie. Il faut aller au culot, comme on dit. Hein. Allez, on va prendre Bérénice. Je suis arrivé en 2009 jusqu'en 2014. 2017, j'ai pris un visa de tourisme et j'ai eu un enfant. Je souhaiterais faire une naturalisation. Est-ce possible ? Bonjour, Bérénice.
Oui, bonjour. En fait, c'était pas du tout ça. C'est pas du tout une
question de naturalisation,
en fait.
Allez-y.
Donc, parce qu'en fait, du coup, ben oui, j'aimerais retourner chez moi pour que mon mari puisse faire une demande de regroupement familial.
En fait, quelle est votre situation administrative ? Vous êtes française ou bien vous avez un titre de séjour ou un titre de résident ?
Non, mais je suis pas du tout. Je suis pas du tout française. Et c'est mon mari qui a une carte de résidente de 4 ans.
En fait, vous, quelle est votre situation administrative ? Vous n'avez pas de titre de séjour pour l'instant, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Donc, quelle est votre inquiétude ? Quelle est votre question ? Qu'est-ce que vous souhaitez ?
Mon inquiétude, en fait, parce que pour que je puisse avoir des papiers, on me demande de retourner dans mon pays pour que mon mari puisse faire
le regroupement familial.
Et du coup, ma question, mon souci est que quand je serai là-bas, vu que je suis venue en France avec
un visa touristique, oui, d'accord, je comprends.
J'ai accouché et je suis restée. Est-ce qu'en y retournant et pour demander un deuxième visa pour regroupement familial, ça sera-t-il pas compliqué par rapport à l'ambassade ? Est-ce qu'ils vont me le donner facilement ?
Très bien. Il peut y avoir des complications, mais est-ce que votre mari, vous êtes marié ici civilement ?
Oui, on est marié ici civilement et mon mari, il a une bonne situation.
D'accord. Et je veux dire, de votre union, il y a un enfant ou pas ?
Oui, il y a un enfant qui est né ici en France, oui.
Donc la solution, vous n'êtes pas obligé de retourner au pays, madame. À partir du moment où il y a un enfant qui est né sur place,
enfant
ça veut dire que
mariage.
Vous avez la preuve d'une vie commune qui est effective d'un mariage, d'une union matrimoniale.
Solide.
Vous pouvez demander ce qu'on appelle le regroupement familial sur place.
Ouais.
Vous êtes éligible au regroupement familial sur place. Donc, votre solution est possible. Si vous voulez d'autres informations, vous essayez de nous appeler. En l'occurrence, pour ceux qui ont besoin de ce numéro aussi, pareil. Donc, surtout un SMS au 06 16 05 45 51. Envoyez-moi un SMS surtout. Donc, et là, on vous aidera.
Alors, il ne reste plus assez de temps à Lyoutal, à l'occasion de la Saint-Valentin. Vous avez donc décidé de faire une petite surprise à nos auditeurs, aux auditeurs du droit. Et nous, en 2 minutes, qu'est-ce que vous allez nous proposer ?
Alors, comme l'année dernière, ça devient une coutume.
Ouais.
C'est la Saint-Valentin, on va faire une petite musique pour les amoureux de la Radio Africa numéro 1.
Voilà.
Et pour les auditeurs du droit et nous.
Voilà.
Donc, dédicace à tous les amoureux et bien tous ceux qui veulent devenir amoureux. Donc, voilà. Ne faites pas la guerre, faites l'amour.
Faites l'amour. Nous vous écoutons, Lutal.
Boko setlo da famelli jurunyoko. Bunko jure, modini yelo unyoko. Fajar jod, mingi woti lumundeke. Timis jod mingi wuti lumurere yow mara jungle ko mu xam dara dangodara suhamuldar dumandara amna mara yukaisa smu indi khalis amna mara yukaisa kulidetis. Non, ça c'est pour Phil. Et pour les amoureux, quelques notions encore, ça c'est spécial pour les amoureux.
Allez, c'est parti.
Hey yo nampali yo fonkangama, hey yo nampali yo bagangama, limo terba man manawla, limo terba man manopla, limo terba man manawla, limo terba man manopla. Mon âme est perdue et t'es en panne, tu es la manne qui l'a ressuscité. Avec toi, je me sens vivant et ma passion s'envole chaque instant. Comme du fer attiré par un aimant, tu attires mes sens sans détour. Davantage, tu ne cesses de me plaire. Le terre est un crime contre l'amour. Tu rends ma vie très excitante par ta beauté naturelle envoûtante. Tu es zen, douce, charismatique. Ton visage énigmatique rappelle Mona Lisa. Hey yo nampali yo fonkangama,
ouais.
Hey yo nampali yo bagangama, limotar baman manawla, limotar baman manopla, limotar baman manawla, limotar baman manopla.
Merci à Lutal.
Et j'en profite pour faire dédicace à notre amie Valérie. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire Valérie Police.
C'était Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Aliutal sur Africa numéro 1.
Le plus de la grande matinale sur Africa numéro 1.
Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Aliutal sur Africa numéro 1.
Suite de nos ateliers sur la préparation de l'entretien d'assimilation pour obtenir la nationalité française par naturalisation. Bonjour Aliutal.
Bonjour Phil.
Nous avons eu beaucoup, beaucoup d'appels. Hein. Certains ont été frustrés d'ailleurs la semaine dernière.
C'est vrai.
Nous sommes donc presque obligés de revenir là-dessus. Voilà. Alors, pour réussir son entretien d'assimilation, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'histoire de France ?
Effectivement, on a traité d'autres questions sur la préparation de l'entretien d'assimilation en vue d'obtenir la naturalisation par décision de l'autorité publique. On a précisé qu'il y a d'autres formes de naturalisation. On peut acquérir la nationalité française par le mariage. On peut aussi l'acquérir du fait de la filiation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étranger qui est ici, qui ne veut pas faire son intégration par la naturalisation, parce qu'on lui a donné ça comme une faveur et qu'il a rempli des conditions de fond et de forme.
Mmh.
En l'occurrence, au regard de son comportement, de ses mœurs, de ses us et coutumes, de ses connaissances des valeurs de la République française, des valeurs qui fondent cette République française depuis 1789, et aussi au regard de l'histoire de la France, au regard aussi de l'organisation géographique de la France. Ça me permet donc d'aboutir à cet élément important sur des connaissances basiques de ce que la France a vis-à-vis de son histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette France qu'on connaît aujourd'hui, cette France qui compte parmi les grandes puissances qui dominent ce monde,
ouais,
cette France si fière de son histoire, cette France si fière de son passé, n'a pas été toujours cette France-là. Elle a connu des remous, elle a connu aussi des rebondissements, des périodes creuses, des périodes noires, des périodes de domination.
Ouais.
On a connu la France colonisatrice. On sait que la France a eu une période coloniale où elle a dominé pas mal de pays dans le monde, en l'occurrence pour ce qui nous concerne les États africains francophones. Cette même France a vécu la même chose, a été colonisée par les Romains. Donc si on veut, à mon sens, parler de l'histoire de France, il n'y a pas besoin de remonter au-delà de 2500 ans. Parce qu'avant, c'était la France des barbares, c'était la France désorganisée, il y avait des peuplades, il y avait des tribus, il y avait les Goths, il y avait les Francs, il y avait les Gaulois, ainsi de suite. À côté, il y avait les Romains qui les dominaient. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de partir de ce moment-là où il y a la domination romaine et que la France, par le sang et le fer, a acquis une certaine civilisation.
Mmh.
Parce qu'il n'y avait pas de civilisation ici. Cette France n'avait pas de culture. Cette France n'avait pas, en tout cas, la culture moderne, ce qu'on appelle civilisation par rapport à d'autres nations qui étaient colonisées et civilisées. Cette France n'avait pas cette civilisation qu'elle a donnée à d'autres. Ce sont les Romains qui ont donné à cette France cette civilisation par la force, imposée par la force. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce peuple français donc, n'existait pas en tant que tel. Il n'y avait pas une France en tant que tel. Pour parler de l'histoire de France, il me paraît qu'il faut remonter plutôt à cette période de Vercingétorix et à son père, qui ont eu les premiers à essayer de former une population qui résiste à l'Empire romain. La France était une colonie romaine, comme je l'ai dit, et Vercingétorix a essayé de regrouper les tribus gauloises pour se rebeller contre ce qu'on appelait l'empereur dominateur de la France et de toute l'Europe du Sud, que tout le monde connaît, Jules César en l'occurrence, et son puissant empire romain. Et ceci se situe au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je dis tout ça pour que les auditeurs puissent réécouter. Il ne s'agit pas d'apprendre tout par cœur.
Exact.
Moi, par exemple, là, ce sont des souvenirs, des réminiscences de mes leçons de première et ensuite de la culture, effectivement, et aussi de la mission que j'avais pour former des gens. Mais globalement, c'est des informations qu'on savait plus ou moins. Mais ce qui nous intéresse, c'est de garder les résidus. L'auditeur qui écoute ça aura des éléments pour répondre aux questions qu'on a traitées. On a eu un numéro sur quelles sont les questions qui arrivent souvent pour passer l'entretien d'assimilation. Maintenant, c'est quelles sont les réponses, les éléments de réponse pour être bien armé à répondre à ces questions. C'est ce qu'on est en train de donner aux auditeurs qui auront d'ailleurs intérêt à réécouter le podcast de cette émission qui sera vraiment assez utile pour quelqu'un qui veut réussir et optimiser les chances d'avoir sa nationalité en réussissant l'entretien d'assimilation. Pour revenir à Jules César, Jules César, lui, avait dominé la France avec deux ingrédients. Vous savez, en stratégie, en politique internationale, on parle de stratagalos. La stratagalos, c'est de là que vient le mot stratégie. Et ce mot stratagalos vient du mot latin belli, qui renvoie même jusqu'à présent un mot français qui veut dire belliqueux, qui veut dire la guerre. Toute la stratégie portait sur la guerre. Et Jules César avait dit que pour dominer les peuplades en France, il fallait deux stratégies. D'abord, diviser pour mieux régner, ce qui fait que la France n'était pas organisée. On avait du mal à avoir une population française. Et ensuite, faire de la guerre préventive, comme disait l'adage.
De la guerre préventive.
Effectivement, si bis pacem, parabellum. Si on veut la paix, il faut préparer la guerre et l'anticiper. C'est ainsi qu'il a dominé la France, les Francs et les Goths et toutes les populations qui étaient en Outre-Rhin, qui étaient à l'ouest de la France, qui étaient au sud dans l'Empire ibérique. C'est ainsi que l'histoire de France s'est formée concrètement à partir des années 50 avant Jésus-Christ, avec donc effectivement cette tentative de Jules César et de son père qui a été brûlé vif d'ailleurs parce qu'il a échoué. Et Jules César lui-même qui a échoué parce que les Francs étaient divisés. Pourquoi ? Parce que Jules César avait cette stratégie de division pour mieux régner. Même stratégie que les Français ont utilisée plus tard. Contre qui ? Les populations qu'ils ont colonisées, en l'occurrence les Africains, et qui peut-être l'utilisent d'après certains, en ce qui concerne donc cette désorganisation donc, étatique qui se passe en ce moment en Afrique. Donc, effectivement, après ceci, on peut dire pendant des siècles, les Gaulois étaient soumis aux Romains qui les dépouillaient de leur richesse et leur faisaient subir un impôt. Jusqu'au point, ça c'est jusqu'au 5e siècle, au point même de se plaindre au niveau de l'Église catholique, parce qu'après Jésus-Christ, il y a l'Église catholique qui a commencé donc à prendre corps, à avoir un certain pouvoir, jusqu'en 1905 avec la fameuse loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Et on disait, il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et rendre à César ce qui appartient à César. Et en latin, Da César, quae permanet ad César, da Deo, quae Dei est. Pour ceux qui font droit, on connaît un peu quand on apprenait en première année de droit, ce qui concerne le droit divin, le droit canonique, le droit d'inspiration divine, qui était carrément inspiré par le droit romain et le droit de l'Église catholique. Donc pendant des siècles, ça s'est passé ici, il n'y avait pas effectivement une France en tant que telle. Avec les Gaules sous Vercingétorix, la France était un territoire dominé, on l'a dit. Et aussi, ces barbares, ces Goths ont eu à quand même essayer, avec la déconfiture de l'Empire romain au 5e siècle, à essayer de créer des premières velléités d'organisation. Et c'est là où interviennent les Francs, qui ont donné leur nom à ce qu'aujourd'hui on appelle la France. Ça n'existait pas. On a pu parler de Gaules, les Gaules à nos ancêtres. Mais la France a existé carrément avec les Francs. Les Francs qui étaient relégués au second plan par les Romains et qui ne servaient que de fantassins au rang des armées romaines, comme les Allemands ou Outre-Rhin. C'est à partir de Clovis que la France a commencé à exister, Clovis qui a réussi à créer la première fois une unité de toutes les populations de Francs et à constituer une entité qu'il a dirigée. Et ça, c'est donc plus tard, il faut le retenir. C'est à partir du 5e siècle que les Francs, avec les Visigoths, ont commencé à jouer un rôle dans l'histoire de la Gaule, qui portera leur nom, comme je l'ai dit en l'occurrence, la France. Avant, ils étaient des barbares, à l'instar des Vandales, comme on le connaît, on parle de vandalisme. C'était des gens qui étaient dans la désorganisation organisée. Ils étaient soumis, donc, et moins important même que les Goths, qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle l'Allemagne, donc qui ont eu à avoir des résistances. Donc avant Clovis, il faut le retenir, on ne pouvait pas parler de France. les Romains n'accordaient aucune importance à ce que furent les Francs et les Gaulois. Donc, il faut retenir que c'est Clovis Ier, dans son nom latin, Clovis Victus, ou bien Clodo, il n'était pas clandestin, hein, mais on l'appelait familialement Clodo, qui, au 5e siècle, a marqué les premiers pas, les premiers jalons de l'histoire de France. Après cela, l'histoire a continué jusqu'à Louis XIV. Le grand Louis XIV, qu'on appelait le Roi Soleil, qui a marqué le 17e siècle en France, et qui, aujourd'hui, quand on parle de Louis XIV, on parle de Roi Soleil, et on parle aussi du château de Versailles. On ne peut pas l'ignorer, parce que vraiment, il a marqué la France avec ses éclats de richesse, la France de ses noblesses, qui jusqu'à aujourd'hui se fait envier donc, de ce qui reste, de ce qu'il a créé donc, de cette histoire de France. Et après, on peut retenir que par rapport à l'histoire, après Louis XIV, l'histoire récente de France, ce qu'il faut retenir, je donne des éléments, on ne peut pas résumer toute l'histoire de France, exact. Les éléments saillants qui sont vraiment importants à retenir.
Les grandes lignes.
Les grandes lignes. Après Louis XIV jusqu'à Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'il faut retenir, ce qui est important? Effectivement, on se rend compte que dans beaucoup d'entretiens d'assimilation, on pose des questions sur cette partie de l'histoire de France.
Ouais.
Ce que je viens de dire, c'est un peu assez historique. Quand on a un bon niveau intellectuel, on peut tomber sur un agent qui essaie de vous tester.
Ouais.
Ce n'est pas comme... Parce que l'entretien d'assimilation, maintenant, ça se fait en fonction du niveau du postulant. Comme je l'ai dit la dernière fois, on ne va pas demander à un monsieur Phil qui a un bac plus 5 les mêmes informations que ma tante vendeur de maïs chaud à Barbès qui fait des efforts pour parler français. On ne va pas les demander. Mmh. On lui demandera des notions globales sur l'histoire de France. Donc, il faudra avoir de manière globale une vision exhaustive de ce que c'est que les grands points de l'histoire de France. Surtout si vous avez un bon niveau, on aura tendance à vous demander plus d'informations. Que si vous avez un niveau élémentaire, on va juste jauger votre connaissance de la langue française.
Alors, Aliutal, pour réussir son entretien d'assimilation, qu'est-ce qu'il faut retenir de la géographie aussi, hein, de la géographie et surtout de l'organisation administrative de la France?
Ça, c'est très important, parce que c'est des questions sur lesquelles les gens, beaucoup de gens pêchent.
Ouais.
Mais il me paraît qu'il est important de terminer quelques points sur ça. On doit parler de la Première
Guerre mondiale. Avant de prendre les auditeurs tout à l'heure.
Voilà, de la Première Guerre mondiale, on doit parler aussi des tensions qui ont marqué l'histoire contemporaine de la France. On a parlé de l'histoire ancienne. Ouais. Ça, c'est l'histoire antique, après l'histoire médiévale. Mais il y a l'histoire contemporaine de la France qui est très importante et qui va revenir dans les entretiens. Et aussi de quelques personnalités qui ont marqué cette histoire de France. Il faut avoir des noms. Il y a des icônes qui ont marqué l'histoire de France, comme il y a des icônes, des ingrédients, des symboles qui marquent la République française, on l'a étudié, la Marianne, la Marseillaise, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut retenir assez rapidement sur la première République française, c'est que la France n'a pas toujours été une démocratie. Elle fut gouvernée pendant longtemps, comme je l'ai dit, par une monarchie absolue, sous le règne surtout de Louis XIV, comme on l'a dit. Et dans ce régime, le pouvoir était concentré autoritairement sur une personne, en l'occurrence le roi, qui pouvait dire « l'État, c'est moi ». D'ailleurs, quand on apprend de droit, on apprend qu'en France, il pouvait dire « l'État, c'est moi ». Parce que tout tournait, tout partait de lui, tout revenait à lui. Et le peuple français qui a été agacé, comme on l'a dit, par cette gestion monarchique et autoritaire du pouvoir, s'est révolté, ce qui a donné lieu à la Révolution française de 1789. Ce qui est très important, comme on l'a dit, des dates à retenir. Et ça s'est marqué par la prise de la prison royale qui était ici, là où nous sommes, à la Bastille,
oui,
le 14 juillet 1789. Donc ici à Paris, pour ceux qui ne sont pas à Paris, nous sommes à Paris. Et c'est le symbole de ce défunt régime qui marque le début de la nation française unifiée, la nation moderne. Et cette unité nationale et la Déclaration des droits de l'homme de 1789 marquent jusqu'à présent l'ampleur et le rayonnement international de la France. Quelques années de tractation plus tard, le peuple français a déclaré la Première République française en 1792. La révolution, c'est en 1789, mais après, il y a eu des négociations avec des communes, avec les révolutionnaires, avec l'ancien régime pour former ce qu'on appelle la Première République française. On est à la 5e République aujourd'hui. Et contrairement à la monarchie, dans une république, comme on dit, c'est une démocratie, demos et kratia. Le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants, comme l'a développé les littéraires donc des siècles des Lumières, en l'occurrence Jean-Jacques Rousseau. Le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants. D'où la théorie de la séparation des pouvoirs. On peut noter trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Qui, maintenant, sont séparés et autonomes. Avant, c'était recoupé entre les mains d'une seule personne, le monarque, qui pouvait même décider de votre vie ou de votre mort. La tête de file ne me plaît pas, décapitez-le. Ça, c'était avant. Là, ce n'est plus possible, mon ami.
Ouais.
Alors, après ça, il y a les tensions qui ont marqué l'histoire contemporaine de France. Il faut le dire que même l'histoire contemporaine, on a dit que l'histoire antique a été marquée par une domination qui a été subie par la France, surtout à l'égard des Romains qui les dominaient, mais même l'histoire moderne aussi de la France a été marquée par des tensions. Il en est ainsi des guerres de conquête coloniale qu'on connaît surtout au 19e siècle, en Afrique, en Asie, aux Antilles, de la Première Guerre mondiale, avec ses millions de morts, près de 10 millions de morts, 9 millions à 10 millions de morts, et dont la fin est commémorée quand le 11 novembre, on l'a dit la dernière fois, date qu'il faut retenir. De la Deuxième Guerre mondiale qui aurait aussi, d'après les informations de l'histoire, plus de 50 millions de morts à vérifier, et dont on commémore la fin le 8 mai. Il y a des guerres de décolonisation qui ont déclenché vraiment beaucoup de tensions en Asie et en Afrique, et notamment par rapport à ce qu'on connaît en Afrique pour la guerre d'Indochine et surtout en Afrique, la guerre d'Algérie. C'est des dates qui ont marqué tristement l'histoire de France. Il y a aussi des tensions géopolitiques qui ont amené la France à avoir un rôle important dans l'organisation de la communauté internationale, en l'occurrence en jouant un rôle dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en dernier lieu par rapport à l'histoire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi par rapport à cette domination de la Deuxième Guerre mondiale, une histoire triste, surtout entre les années 1940 et 1944, le fameux régime de Vichy, qu'on accuse d'avoir été complice de cette domination allemande et surtout de ce qu'on appelle l'Holocauste, le traitement qui a été infligé aux Juifs parce qu'ils sont Juifs et effectivement qui altère un peu l'histoire actuelle de la France. Maintenant, ce qu'il faut retenir, on peut vous dire, c'était nous, quelques autorités, quelques personnalités qui ont marqué l'histoire de France. On a parlé de Vercingétorix, entre les années 50 avant Jésus-Christ. Il faut noter Clovis, comme je l'ai dit, qui a réuni les Francs et formé la première population française. Clovis, dans les années 466 et environ 511 après Jésus-Christ. C'est des noms. Jeanne d'Arc, aussi pareil, symbole du dévouement pour la patrie lors de la guerre des 100 ans contre l'Angleterre. 100 ans contre l'Angleterre. On dit, c'est pas 100 ans en tant que tel, 100 ANS. Il faut aussi noter qu'il est aussi précurseur de la liberté religieuse. C'est pourquoi, d'ailleurs, il fait la référence de certaines personnes qui sont dans le nationalisme à outrance, en l'occurrence Marine Le Pen et consorts. Mais pas que. Les gens sont fiers de cette partie de la France. Mais il y en a qui veulent récupérer ça, en faire le symbole du nationalisme. Il y a aussi par rapport à, toujours la France, Napoléon Ier, qui a vécu aussi au XVIIIe siècle, jusqu'en 1921, qui était le roi guerrier et surtout le père de la codification des règles qui ont formé le Code civil français, notamment le Code civil de 1804. Il y a aussi, après cela, une personnalité qui a beaucoup fait dans l'éducation, le droit à l'éducation, la libération de l'enseignement, de l'accès à l'enseignement, qui l'a rendu public et laïque, Jules Ferry. Vous ne pouvez pas ignorer cette personne lors de votre entretien. En dernier lieu, je ne vais pas manquer de citer Charles de Gaulle. Bye. Il a beaucoup joué pour les Français lors de la libération depuis Londres. Français, débrouillez-vous, dites non aux Allemands. Et finalement, qui porte beaucoup dans le cœur des Français, qui porte beaucoup dans l'histoire de la France et dans sa libération et dans la consolidation de ce qu'on appelle la 5e République, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Donc, globalement, voilà des éléments qu'il faut retenir. Vous pouvez faire des développements sur cette partie et faire des recherches, mais ce que je viens de dire suffit pour passer l'entretien d'assimilation. Il suffit juste de réécouter, d'avoir une certaine logique au niveau de la chronologie. Depuis Vercingétorix, en passant par Clovis, jusqu'à Louis XIV, en passant par Napoléon et jusqu'à Charles de Gaulle, et si vous voulez, pour l'histoire actuelle, vous pouvez même remonter jusqu'à François Mitterrand, et ensuite Jacques Chirac, qui a beaucoup joué aussi, et aussi Nicolas Sarkozy, qui a joué, sans compter François Hollande, et en dernier lieu, Emmanuel Macron.
Voilà, retenir donc l'histoire de France, retenir la géographie et l'organisation administrative de la France. On parle d'assimilation pour obtenir la nationalité française par la naturalisation. On va marquer une pause et on revient juste après avec vos questions directes au 0155 07 58 00. Nous avons Anna qui est déjà en place et qui attend depuis un moment. Ne bougez surtout pas, on revient juste après ça.
Le plus de la grande matinale sur Africa numéro 1.